VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Nous sommes le lundi 14 août 2023 et il est 18h30 en temps universel. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à l'écoute. Jacques Aristide pour vous présenter le monde aujourd'hui au sommaire ce soir. Le Niger est capable de surmonter les sanctions après le coup d'État, affirme le régime militaire au moment où l'Union africaine se réunit à Addis Abeba.
Nous allons à une catastrophe. Il faut que nos gouvernants réfléchissent bien. Ce ne sont pas eux qui vont au front au Niger. Un État comme le Bénin, quel armement il a? Nous n'avons rien.
Réaction de Béninois tout à l'heure dans la partie magazine. Grave inquiétude en Éthiopie face aux violents combats dans la région de l'Amara. Au Soudan, nouveaux affrontements à Khartoum et au Darfour. Le bilan encore provisoire des incendies à Hawaï atteint près de 100 morts. Et dans environ 10 minutes, vos rendez-vous habituels avec l'économie et les sports. Le Niger est en mesure de surmonter les sanctions imposées après le coup d'État, affirme le Premier ministre nommé par le régime militaire à Niamey. Cette déclaration survient au moment où l'Union africaine se réunit à Addis Abeba aujourd'hui pour discuter de la crise. Le point avec Nanit Talani.
Nous pensons que même s'il s'agit d'un défi injuste qui nous a été imposé, nous devrions être en mesure de le surmonter. Et nous le surmonterons, a déclaré à un média public allemand le chef du gouvernement Ali Mahaman Lamine Zen à propos des sanctions prises par la CEDEAO. Il a également assuré que le Nigeria et la CEDEAO sont des partenaires importants et que Niamey a grand intérêt à préserver cette relation et faire en sorte que la CEDEAO travaille d'abord sur des questions purement économiques. Il ajoute que si le principe politique et militaire passe au premier plan à la place de cette solidarité économique, ce serait très regrettable. Par ailleurs, la junte dit avoir rassemblé suffisamment de preuves pour poursuivre le président déchu Mohamed Bazoum pour haute trahison. Pour sa part, le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine se réunit à Addis Abeba pour discuter de l'évolution de la situation au Niger. Ce week-end, une rencontre des chefs d'état-major de la CEDEAO a été reportée. Elle devait faire part aux dirigeants des meilleures options pour activer et déployer la force en attente pour rétablir le président Bazoum, renversé le 26 juillet.
Et en réaction aujourd'hui, la CEDEAO affirme que les menaces de poursuites judiciaires contre le président Bazoum pour haute trahison constituent une nouvelle provocation de la junte nigérienne. Dans un communiqué émis à Abuja, le bloc ouest-africain ajoute que ce projet contredit la volonté prêtée au régime militaire de rétablir l'ordre constitutionnel au Niger par des moyens pacifiques. Au Soudan, des combats entre l'armée et les paramilitaires ont eu lieu aujourd'hui dans différents quartiers de Khartoum et dans une région du Darfour, dans un pays en guerre depuis près de 4 mois maintenant. Les précisions avec Eric Manirakiza.
Des frappes aériennes intenses et de fortes explosions ont retenti à Khartoum. Au Darfour Sud, des habitants se sont de nouveau réveillés ce matin au son des tirs d'artillerie et continuent de fuir la ville, attaquée par des paramilitaires. Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée, est apparu à la télévision nationale soudanaise dans une rare vidéo où il a dénoncé la plus grande conspiration de l'histoire moderne du Soudan et a promis de bientôt célébrer une victoire définitive sur la rébellion brutale menée par son rival, le général Mohamed Hamdan Daglo. De l'autre côté de la frontière, à Adré, ville de l'est du Tchad, plus de 358 000 réfugiés soudanais sont arrivés depuis le début du conflit, selon Médecins sans frontières. Toutes ces personnes sont exposées au soleil et à la pluie et ne disposent pas de suffisamment de nourriture, d'eau, ni de matériel de cuisine.
En Éthiopie, au moins 26 personnes ont été tuées hier dans une frappe aérienne à Finote Selam, dans la région de l'Amara, en proie à des combats. Pour sa part, la Commission éthiopienne des droits de l'homme exprime sa grave inquiétude sur ces affrontements dans cette région de l'Amara et sur les arrestations massives de personnes de l'ethnie Amara. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
La Commission éthiopienne des droits de l'homme affirme avoir reçu des plaintes pour violation des droits humains avant et après la déclaration de l'état d'urgence. Cela fait suite à un regain de combats en région Amara entre l'armée fédérale et des combattants locaux, dont la milice Fano. À Addis Abeba, il y a eu des arrestations massives de civils d'origine ethnique Amara, ainsi que de nombreuses détentions de migrants irréguliers en provenance d'Érythrée, souligne l'organisme de surveillance des droits humains. Le gouvernement fédéral a annoncé vendredi que 23 personnes ont été arrêtées, dont un député et un journaliste. Après plusieurs jours d'affrontements meurtriers, l'armée a réinvesti les principales villes de la région Amara la semaine dernière. En avril dernier, le premier ministre Abiy Ahmed a annoncé vouloir démanteler les unités paramilitaires. Les nationalistes Amara estiment que le gouvernement veut les affaiblir. Les forces spéciales Amara et la milice Fano ont été des alliés du gouvernement durant la guerre du Tigré entre 2020 et 2022.
Également dans l'actualité, en République démocratique du Congo, 3 ans de prison ont été requis aujourd'hui contre Jean-Marc Kaboun, l'ancien chef du parti présidentiel. Il est poursuivi pour outrage au chef de l'État, pour propagation de faux bruits, pour soulever la population et pour outrage aux institutions de la République, c'est-à-dire le Parlement et le gouvernement. Jean-Marc Kaboun est député et fut vice-président de l'Assemblée nationale. Il a été arrêté le 9 août de l'année dernière. Il est détenu depuis à Makala, la grande prison de Kinshasa. La défense demande son acquittement pur et simple, car il n'y a aucun élément constitutif d'infraction dont on l'accuse, affirme son avocat, maître Georges Loutoula.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le bilan des incendies à Hawaï atteint au moins 96 morts et devrait augmenter. Les brasiers d'une intensité et d'une vitesse rare ont laissé des cadavres calcinés, difficiles à identifier. Les autorités sont critiquées sur la gestion du drame. Davantage avec Alexandrine Olognon.
Le bilan pourrait dépasser les 100 décès. Aucun de nous ne connaît encore l'ampleur du désastre, a reconnu John Pelletier, chef de la police de l'île. Les circonstances de ces incendies ravageurs, dont la cause n'est pas encore connue, restent floues. Ils ont pris la population par surprise, ce que beaucoup reprochent aux autorités. Une enquête a été ouverte sur les événements, et notamment les décisions prises par les autorités. La députée de Hawaï, Jill Tokuda, a déjà reconnu que les autorités ont sous-estimé le danger et la rapidité du feu. Plus de 2200 bâtiments majoritairement résidentiels ont été détruits ou endommagés, selon l'agence fédérale chargée de la réponse aux catastrophes naturelles. Face à l'étendue des dégâts, le président Joe Biden, qui a déjà décrété l'état d'urgence pour faire parvenir l'aide fédérale à Hawaï, a même envisagé de se rendre sur place, mais plusieurs feux de plus petite taille sont encore actifs.
En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky déclare s'être rendu aujourd'hui sur le front dans la région de Donetsk pour aller à la rencontre des troupes qui combattent l'armée russe. Kiev revendique quelques gains dans l'est et le sud du pays, de petites avancées dans le cadre de son éreintante contre-offensive entamée il y a 2 mois pour libérer ses territoires occupés par la Russie. Moscou affirme pour sa part avoir repoussé avec succès des attaques dans la ville ukrainienne de Kupiansk. La Russie indique par ailleurs avoir envoyé un chasseur pour intercepter ce lundi un avion militaire norvégien qui s'approchait de ses frontières au-dessus de la mer de Barents dans l'océan Arctique. Quant au ministre allemand des Finances, Christian Lindner, il a assuré l'Ukraine du soutien de Berlin lors de son premier déplacement aujourd'hui dans la capitale ukrainienne depuis le début de l'invasion russe. L'Ukraine ne doit pas perdre cette guerre, a ajouté le ministre à Kiev. En Inde, au moins 49 personnes ont péri, dont 9 dans l'effondrement d'un temple après des inondations massives et des glissements de terrain dévastateurs. Plusieurs jours de pluie torrentielle ont détruit des ponts et des bâtiments, emporté des véhicules dans les états de l'Uttarakhand et de l'Himachal Pradesh, situés dans le nord du pays. L'administration locale s'efforce de dégager les débris afin de porter secours aux personnes qui pourraient encore être prises au piège, déclare déclare Sukhvinder Singh Sukhu, le premier ministre de l'État de l'Himachal Pradesh, dans un communiqué publié aujourd'hui. En Iran, les autorités indiquent ce lundi avoir arrêté 8 suspects, tous de nationalité étrangère, après l'interpellation de l'auteur d'une fusillade qui a fait un mort et 8 blessés dans un sanctuaire chiite hier. La fusillade, qui n'a pas été revendiquée, survient moins d'un an après une attaque similaire sur le même lieu saint, le mausolée Chehrag à Shiraz, chef-lieu de la province de Fars. La Banque centrale russe annonce une réunion surprise pour demain sur le taux directeur sur fond de chute du rouble au plus bas par rapport à l'euro et au dollar depuis mars de l'année dernière, juste après l'assaut russe contre l'Ukraine. Et voilà donc pour le journal. Un condensé des nouvelles économiques, la Minute Éco avec Alexandrine Ollonion.
La directrice de cabinet du président malgache et un ressortissant français ont été arrêtés au Royaume-Uni. Ils sont soupçonnés d'avoir demandé des pots de vin pour l'attribution de licences d'exploitation au groupe minier britannique Gemfields. S'ils sont reconnus coupables, ils encourent chacun jusqu'à 10 ans de prison. L'Afrique du Sud et la Chine signent des accords commerciaux d'une valeur de 2,19 milliards de dollars en marge d'une visite du ministre chinois du commerce Wang Wentao à Pretoria. Selon l'agence Ecofin, ces accords visent à stimuler les exportations manufacturières sud-africaines vers l'Empire du Milieu et les investissements chinois dans le pays le plus industrialisé du continent. L'Afrique du Sud invitée à intervenir d'urgence pour transformer son économie afin d'éviter que le taux de chômage n'atteigne près de 40% d'ici à 2030. Le pays est confronté à un taux de chômage record de près de 33%. Il s'agit d'une bombe à retardement susceptible de provoquer une instabilité politique, selon les Nations Unies et d'autres experts.
Sans plus tarder, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo pour les sports. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Place demain aux demi-finales de la Coupe du Monde féminine.
Oui, un premier choc a lieu ce mardi à Auckland entre la Suède et l'Espagne. Les Espagnols ont réussi le tour de force d'avoir éliminé les deux dernières sélections championnes du monde. Les États-Unis double tenante du titre en 8e, puis le Japon sacré en 2011. Les Suédoises misent sur leur défense pour contrer les mouvements et le jeu de passe des Espagnols. Mercredi, les Australiennes soutenues par la ferveur de tout un pays affrontent à Sydney les Anglaises, championnes d'Europe en titre après la France. Les Australiennes devront franchir un nouveau mur, celui de l'efficacité et du physique des Anglaises. L'Angleterre fera sans son attaquante vedette Lauren James, suspendue pour un mauvais geste contre le Nigeria. La 4e nation mondiale au classement FIFA atteint le dernier carré pour la 3e fois de suite, mais une qualification en finale serait aussi historique pour les Anglaises. Il n'y a plus aucun vainqueur du mondial en lice en Océanie. Dimanche, une nouvelle nation sera forcément sacrée.
Toujours chez les dames, la CAF a effectué le tirage au sort des éliminatoires de la prochaine Ligue des Champions.
Ça commence par la zone COSAFA, 8 équipes réparties en 2 groupes de 4. Dans la poule A, nous avons les Green Buffaloes de la Zambie, Double Action Ladies du Botswana, Defense Force de Lesotho et Tsopoa FC du Malawi. Le groupe B regroupe les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, Olympique Moroni des Comores, Costa do Sol du Mozambique et Buffle d'Eswatini. À noter qu'à l'issue du tour qui aura lieu à Durban en Afrique du Sud du 30 août au 8 septembre, seul le vainqueur va représenter la zone à la phase finale prévue en Côte d'Ivoire du 5 au 19 novembre prochain.
Le gardien de Chelsea prêté une saison au Real Madrid.
Kepa Arrizabalaga va évoluer cette saison au Real Madrid pour pallier l'absence du Belge Thibaut Courtois, blessé après un accord entre les deux clubs. Le Real Madrid et Chelsea ont donné leur accord pour le prêt du joueur Kepa Arrizabalaga jusqu'au 30 juillet 2024, a annoncé le club merengue dans un communiqué. Le gardien de Chelsea, qui était proche d'un transfert au Bayern Munich, a été choisi pour remplacer Courtois, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche jeudi. L'ancien gardien de l'Athletic Bilbao a failli signer au Real en 2018, mais l'entraîneur de l'époque, Zinedine Zidane, avait estimé qu'il n'avait pas besoin d'un gardien de but. Le nouveau gardien du Real Madrid sera présenté demain à la presse.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant de passer à notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. La CEDEAO, tout en privilégiant la voie du dialogue, a donné son feu vert à une intervention armée contre les militaires qui ont pris le pouvoir le 26 juillet dernier au Niger, en activant sa force en attente. Cependant, les experts doutent de la faisabilité d'une opération militaire à haut risque et difficile à mettre en œuvre. Eric Manerakidza a joint au Niger le journaliste Ibrahim Manzo Diallo, analyste des questions politiques et militaires.
En fait, cette force, il faut le dire, elle n'est pas matériellement présente. Et c'est une force qui est seulement active au besoin quand la CEDEAO veut agir dans le cadre du maintien de la paix ou du rétablissement d'un pouvoir démocratique dessus. Donc elle est là activée. Et dans le cadre du Niger, c'est ça actuellement qui est en train de se préparer. Et pour le financement de cette force, en fait, les pays contributeurs de cette force, c'est toujours les pays de la CEDEAO. Même s'il faut le dire, il y a quand même des pays derrière les rideaux qui peuvent financer cette force, des pays occidentaux et qui n'apparaissent pas, mais qui sont quand même les vrais pourvoyeurs des fonds pour cette force.
C'est une force qui se prépare d'intervenir au Niger. Quelles pourraient être les difficultés qu'elle pourrait rencontrer sur le terrain?
Eric, la première difficulté qui est déjà apparente, qui est là, que nous pouvons analyser déjà comme un maillon de faiblesse pour cette force, c'est l'adhésion de tous les États de la CEDEAO. Vous conviendrez avec moi que sur la quinzaine ou 16 États qui la composent déjà, il y a quand même des pays qui sont rétractés, qui ne veulent pas d'une intervention militaire. Eh bien, ces pays, s'ils se rétractent, ils ne vont pas offrir la logistique, ils ne vont pas offrir le fonds, ils ne vont pas offrir les hommes, et surtout, ce qui est grave, ils ne vont pas aussi accepter de laisser leur espace aérien être mis à profit pour attaquer un pays comme le Niger qui est aujourd'hui sur le chapitre d'intervention.
Maintenant, au niveau du Niger, est-ce que l'armée du Niger est-elle capable de faire face à cette force?
Et franchement, actuellement, au moment où je vous parle, le Niger, il est sur le qui-vive sur le plan militaire. Parce que, vous le savez déjà, il y a quand même un redéploiement des forces militaires nigériennes de l'intérieur du pays vers les principales frontières qui mènent, par exemple, au Bénin, avec la frontière au Bénin, avec la frontière du Nigeria. Et c'est sûr que le Niger, même s'il ne veut pas de cette guerre, il est quand même prêt pour cette guerre. Mais ce qu'il faut surtout regarder, c'est que même si le Nigeria et le Sénégal, ils sont en tête de poule de cette intervention militaire, il serait véritablement difficile pour ces pays d'engager tous les autres pays de la CEDEAO dans la guerre. Donc actuellement au Niger, il y a la peur d'une intervention militaire, mais c'est surtout la peur d'une intervention militaire des armées occidentales derrière le rideau, ou bien, si vous voulez, derrière l'onction de la CEDEAO, que les Nigériens craignent surtout.
Le journaliste nigérien Ibrahim Manzo Diallo, analyste des questions politiques et militaires. Justement, la question d'une intervention militaire au Niger préoccupe nombre d'habitants au Bénin, comme dans d'autres pays de cette partie de l'Afrique. Du Béninois lambda aux politiques en passant par les religieux, l'usage de la force pour résoudre la crise nigérienne est vu comme une mauvaise idée violant la souveraineté du pays. Les réactions dans ce reportage de Ginette Fleur Adandé, notre correspondante à Cotonou.
La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pense que pour restaurer le président déchu du Niger dans ses droits constitutionnels, il faut une intervention militaire. Au sorti de la réunion jeudi dernier, le président béninois Patrice Talon a réitéré l'alignement du Bénin derrière toutes les décisions de la CEDEAO.
La CEDEAO s'est donnée comme objectif de protéger le seul moyen par lequel les peuples s'expriment. Si les processus démocratiques ne sont pas encore parfaits, il faut travailler à les améliorer. Mais on ne peut pas permettre qu'un autre moyen, par exemple les armes, soit un moyen de décision, soit un moyen de choix des gouvernants des pays. Si nous laissons faire, notre sous-région va être désintégrée. Si nous laissons faire, le Niger sera désintégré. Il est encore temps pour ceux qui sont là de se retirer pour que ce ne soit pas par la force qu'on leur fasse entendre la raison.
Ces propos ont suscité beaucoup d'interrogations au sein de l'opinion nationale. Le député béninois Issa Salifou, membre du Parlement de la CEDEAO, tout en fustigeant cette décision, souligne que le Parlement de la CEDEAO n'a pas été consulté. Il dit ne pas comprendre les raisons pour lesquelles le Niger cristallise les intérêts de l'institution ouest-africaine alors que d'autres pays ont connu des coups de force.
En tant que parlementaire, on s'oppose à cette décision parce que le problème est d'abord interne au Niger. Et on a vu quand il y a eu des coups d'État dans des autres pays tels que le Mali, le Burkina et la Guinée qui sont aussi membres de la CEDEAO, ils n'ont pas connu ces genres de décisions. Alors pourquoi le Niger? Pourquoi vouloir mettre tout de suite le Niger à genoux devant une situation pareille? Aujourd'hui, on parle d'intervention. Moi, je ne crois pas du tout qu'ils pourront intervenir au Niger. Je ne crois pas.
Dans les rues de Cotonou, les Béninois fustigent le coup d'État et la séquestration du président élu du Niger, mais n'approuvent pas une intervention militaire et que Patrice Talon ferait mieux de se désolidariser des autres présidents.
On ne peut pas régler le mal par le mal. Le problème du Niger doit être réglé par la diplomatie. C'est suicidaire. Nous allons à une catastrophe. Il faut que nos gouvernants réfléchissent bien. Ce ne sont pas eux qui vont au front au Niger. Un État comme le Bénin, quel armement il a? Nous n'avons rien.
Mais qu'est-ce qui fait courir maintenant? La CEDEAO pour dire on ira rétablir le nôtre a dit. Nous allons utiliser tous les moyens pour rétablir l'ordre constitutionnel. Mais est-ce qu'il a pesé ces mots-là?
Avant qu'on envoie un contingent, il faut consulter le peuple ou les représentants du peuple, c'est-à-dire l'Assemblée nationale ou le Sénat de son pays. Est-ce que cela a été fait au Bénin?
Pour le juriste d'affaires et membre fondateur du parti de l'opposition Les Démocrates, au lieu de bomber le torse, la CEDEAO ferait mieux de trouver une solution aux problèmes qui entraînent les coups d'État.
J'ai été très séduit par cette idée de fédéralisme qui est en train de germer entre le Burkina, le Mali, la Guinée, et peut-être qu'il va s'étendre au Niger aussi, et sait-on jamais, un peu plus tard, à d'autres pays. Je ne le souhaite pas, mais si les gouvernances continuent telles qu'elles sont, par des brimades, des privations de liberté, des restrictions de liberté, les mêmes causes vont produire les mêmes effets.
Aux dernières nouvelles, la conférence épiscopale du Bénin a rejoint la liste des contestataires. Les évêques ont demandé à Patrice Talon d'être le porte-flambeau de la voix diplomatique, du dialogue, de la tolérance, du pardon mutuel et du consensus. De Cotonou, Ginette Fleur Adonné pour VOA Afrique.
Dans l'actualité américaine, une procureure de Géorgie est apparemment en voie de présenter son dossier contre l'ancien président Donald Trump devant un grand jury cette semaine. L'enquête porte sur des accusations de pressions électorales après la présidentielle de 2020. Malgré des mesures de sécurité strictes dans cet État, des responsables craignent que cette éventuelle quatrième inculpation de Donald Trump ne soit émaillée de troubles. Davantage avec Veronica Balderas Iglesias de la VOA, le récit est de Dilidico.
La procureure du comté de Fulton, Fanny Willis, doit présenter son dossier à un grand jury cette semaine. Elle cherche à savoir si Donald Trump a fait pression sur des fonctionnaires de l'État de Géorgie pour qu'ils modifient les résultats de l'élection présidentielle de 2020 et s'il a comploté pour utiliser de faux grands électeurs. L'ancien président qualifie cette nouvelle enquête menée en Géorgie de chasse aux sorcières. Gabriel Sterling, secrétaire d'État de la Géorgie, a participé au recomptage des voix lors de la présidentielle de 2020. Monsieur Sterling s'est exprimé lors de l'émission This Week sur ABC.
Nous avons compté les bulletins de vote trois fois. Il a perdu dans cet État et il continue de dire qu'il n'a pas perdu. Cela a créé beaucoup de tensions et de chaos.
Gabriel Sterling dit craindre que les critiques de Donald Trump contre la procureure Willis débouchent sur des violences. Écoutons-le.
Il ne s'agit pas d'une bande de conspirateurs, mais plutôt d'un individu probablement mentalement instable qui peut se radicaliser au cours du processus.
Si l'ancien président est inculpé en Géorgie, les électeurs devront évaluer soigneusement sa candidature en 2024, a déclaré Chris Christie, candidat républicain sur la chaîne ABC.
Je pense que les électeurs républicains devront se poser deux questions. Premièrement, est-il vraiment l'homme qu'il faut? Une personne inculpée dans quatre affaires différentes, compte tenu de sa conduite. Peut-il battre Joe Biden ou tout autre démocrate en novembre 2024?
Le président Joe Biden fait lui-même l'objet d'une enquête pour sa gestion de documents classifiés. Un avocat spécial a été nommé la semaine dernière pour enquêter de manière indépendante sur le fils du président Hunter Biden et ses affaires à l'étranger. Le représentant démocrate Jamie Raskin a fait des commentaires sur cette affaire.
We all seem clear.
Nous sommes tous convaincus que cet homme était dépendant de la drogue et qu'il a commis un grand nombre d'actes illégaux et répréhensibles. Et nous avons dit qu'il fallait laisser la justice suivre son cours.
Après avoir récemment plaidé coupable et être parvenu à un accord pour fraude fiscale et détention illégale d'armes à feu, les procureurs estiment que les risques d'un procès sont plus élevés pour Hunter Biden, le fils du président.
VOA Afrique en direct de Washington.
Le Festival international du film de la diaspora africaine, en collaboration avec le projet Africa World Now, a tenu sa 16e édition durant le week-end écoulé, ici à Washington DC. Pendant 3 jours, les cinéphiles de la capitale américaine ont pu suivre des films qui explorent l'identité, les rêves et les aspirations de l'Afrique et de sa diaspora, comme nous allons l'entendre dans le reportage de Thierry Kaoré.
À cette année post-Covid, le festival s'est déroulé entièrement en personne à l'université George Washington avec une sélection de 10 films et 6 documentaires. En ouverture, le documentaire musical The Woodstock of House, réalisé par Ludwig Wimberly, explore la renaissance d'un genre musical qui, à la fin des années 70, était considéré comme trop noir. À l'affiche et projeté en avant-première, le film intitulé « Épines du Sahel » du réalisateur burkinabé Boubacar Diallo. Ce long métrage de 90 minutes fait un zoom sur la situation du Sahel en proie à des attaques terroristes. Le seul titre « Épines du Sahel » en dit tout sur toute la tragédie. C'est l'histoire d'une jeune fille, Neyma, séparée de son frère Saïd après la mort de leurs parents dans un attentat terroriste où elle a perdu d'audition mais a survécu avec l'obsession de retrouver son frère. Les retrouvailles joyeuses seront de courte durée car Neyma apprend que son propre frère avait rejoint les groupes djihadistes. Boubacar Diallo, réalisateur du film Épines du Sahel.
Ce sujet m'a interpellé vu la gravité de ce que vivent nos États, de ce que vit tout le Sahel. Depuis le Tchad, le Nigeria, le Niger, le Burkina, le Mali. Et puis donc, je voulais donc aussi donner mon témoignage, faire vivre mon imagination avec, surtout avec un petit côté documentaire dans la fiction pour l'avenir, montrer un peu par quoi on est passé, parce qu'on espère tous que ça va très bientôt être un mauvais souvenir.
Après 30 années d'existence, ce festival a connu beaucoup d'engouement. Le témoignage de son président et fondateur, Reynaldo Barroso Speech.
Le festival de la diaspora africaine est né avec la notion d'une diaspora récente et d'une diaspora historique. Le festival a eu lieu une année à Genève, pendant 7 ans à Wilmstead, la capitale de Curaçao, à New Jersey, New York, Washington DC, Paris. Et partout où nous allons, il y a une acceptation totale.
Yami Dagné est une participante venue de la Guadeloupe.
C'est un très bon festival. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu y participer. C'est une initiative qui est très importante de perpétuer le plus longtemps possible.
Créé en 1993, le Festival international du film de la diaspora africaine est basé à Harlem. Il présente, interprète et informe sur des expériences humaines de personnes de couleur dans le monde entier afin d'inspirer et combattre les préjugés. La prochaine édition se tiendra à Paris en septembre.
Et voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. Merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph, à la console Nelson Herbert Lopes. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous. Jacques Aristide à Washington, je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique. Take care, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel.